Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga. Tous les 15 jours, j'échange avec des profs passionnés sur des sujets en lien avec le yoga et notre corps, notre santé ou notre quotidien. De temps en temps, j'ai aussi envie de vous proposer des thématiques un peu plus inattendues qui ne nous amènent pas forcément directement sur le tapis. Aujourd'hui, je profite de cette période de vendange et de foire au vin pour discuter avec Guénaëlle de Beauregard, qui est à la fois professeure de yoga et sommelière. Elle organise des ateliers et des retraites yoga et vin, et comme c'est aussi deux de mes passions, forcément ça m'a parlé. Alors vous avez peut-être en tête des images de cours de yoga avec un verre de vin à la main, mais je vous rassure, c'est pas tout à fait de ça dont on va parler. Guénaëlle va nous expliquer comment elle s'appuie sur le yoga et la méditation pour proposer des dégustations intuitives en pleine conscience. Et vous allez aussi découvrir que finalement il y a pas mal de similitudes entre le yoga, en particulier le yin, et la dégustation ou la culture de vin en biodynamie. Bonne écoute! Bonjour Guénaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour parler de yoga et de vin.
Merci à toi.
Alors toi, tu es à la fois œnologue, sommelière et prof de yoga, c'est ça?
Alors, je suis sommelière et professeur de yoga, ouais, pas œnologue.
D'accord. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment t'es venue l'idée d'associer ces deux passions?
Ouais, bien sûr. Alors en fait, j'ai fait des études à Bordeaux pour devenir commerciale dans les vins et spiritueux. C'était l'école de commerce lambda à Bordeaux, très bien située le long de la Garonne. Et pendant 2 ans, j'ai appris le commerce du vin, comment déguster du vin, les différentes méthodes de dégustation, les différentes méthodes de vinification, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'en fait, ce n'est pas des études pour apprendre à faire du vin. C'est des études pour apprendre à vendre du vin, donc, ce qui sont deux choses différentes. À la fin de ces études à l'INSEC, j'ai fait un stage chez La Parisienne, qui est une brasserie, donc une bière locale, située à Paris, donc à Pantin aujourd'hui. Et j'ai été stagiaire pour eux en tant que commerciale pendant 6 mois. Je suis devenue ensuite agent commercial. Et le métier d'agent, c'est très compliqué quand on ne connaît personne dans la restauration. Et au bout de 2 ans, j'ai fait un burn-out parce que je ne m'écoutais plus. J'ai terminé à l'hôpital. Ça a été très compliqué pendant quelques mois. Et j'ai pris des cours de yoga pour me détendre.
Ouais, vraiment suite à ce burn-out.
Exactement, c'est ça. C'est que j'étais vraiment pas bien. J'étais plus du tout à l'écoute de mon corps. Ça n'allait plus du tout dans ma tête. Je savais plus ce que je voulais. Je savais même plus si je voulais travailler dans le vin. Je me suis dit, je vais me mettre au yoga, conseillée par des amis. Premier cours, comme beaucoup de profs, c'était terrible. Par contre, le deuxième cours, c'était chez Gérard Arnault. Il est dans le 11e arrondissement. Et là, il s'est passé quelque chose. À la fin de la pratique, je me suis retrouvée en Shavasana, par terre, donc allongée sur le sol. Et j'ai pleuré pendant tout le temps du Shavasana. Les larmes coulaient, je ne savais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est simplement parce que mon corps m'avait enfin de nouveau fait confiance et parlé. Et là, je me suis dit, OK, le yoga, c'est quand même quelque chose.
D'accord. Et alors, à quel moment, après ça, tu as décidé de devenir prof et de faire une formation?
Eh bien, pas longtemps après. C'est pour ça que ça a été très compliqué pendant la formation, parce que autour de moi, les gens étaient très forts. Moi, pas du tout. Il faut savoir que je ne suis pas du tout souple au départ. Et du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près. J'ai pris 2-3 cours par semaine chez Gérard Arnault. J'ai essayé d'autres cours. Et en fait, j'avais entendu une phrase qui disait « Le jour où vous avez envie de replacer un élève, alors que vous êtes vous-même élève, c'est que c'est le moment. » Et ça m'est arrivé. Et là, je me suis dit « Ok, j'ai 2 mois d'été. Donc, je vais partir en Italie pendant 2 mois et je vais faire une formation là-bas. » Et c'est ce que j'ai fait.
D'accord. Et alors maintenant, si j'ai bien compris, bah, tu arrives à combiner tes deux passions, donc yoga et vin, notamment à travers des ateliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ces ateliers qui associent les deux?
Bien sûr. Alors ça a mis du temps, en fait, avant que je trouve cet équilibre. C'est-à-dire que cet atelier que j'ai créé, c'est l'équilibre que j'ai trouvé dans ma vie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai délaissé le vin pour être que dans le yoga. Je me disais, je ne vais pas boire, l'alcool, c'est mal. J'en étais carrément à délaisser le vin.
Ah oui, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que oui, tu avais du mal à associer cet amour du vin à oui, l'hygiène de vie qui est parfois associée au yoga.
Exactement, exactement. Et on m'avait beaucoup dit pendant ma formation, l'alcool, c'est pas bon, c'est acide. Et fait que je le sens. Je le sens encore quand je bois plus de 2-3 verres. Le lendemain, j'ai un peu mal aux muscles, j'ai un peu plus de mal à donner mes cours. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'équilibre. Et du coup, pendant un temps, j'ai beaucoup délaissé le vin. Et puis, petit à petit, et ça, j'explique ça à beaucoup de personnes qui se mettent au yoga et qui ensuite deviennent profs. Petit à petit, on essaye quand même d'être moins exigeant envers soi-même, d'être un peu plus bienveillant en se disant, on peut très bien équilibrer, c'est-à-dire sortir, voir ses potes, le lendemain donner quelques cours, ou alors justement ne pas faire du yoga 7 jours sur 7, prendre 2 jours de repos pour vraiment apprécier. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé cet équilibre et que je me suis dit, ok, quand je suis très détendue, notamment après une séance de yoga, j'adore ensuite aller boire un verre avec une amie et rester dans cette détente. Et surtout, je trouve que j'ai beaucoup plus conscience de ce que je suis en train de déguster, notamment quand c'est des bons vins. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart du temps, avec mes amis, j'essaie de leur conseiller des bons bars à vin, avec des vins nature, des vins en biodynamie, des choses qui sont vraiment bonnes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un atelier sur l'essence, en lien avec le yoga et le vin.
D'accord. Et alors, comment il se déroule cet atelier ?
Alors, pour la faire courte... En fait, je parle d'abord de dégustation analytique, c'est-à-dire la dégustation classique que vous pouvez avoir dans une cave avec un sommelier, la robe, le nez, le goût, donc un jargon un peu viticole, un peu œnologique, pour expliquer aux gens comment servir un vin, comment déguster un vin, de manière analytique. Parce que je me rends compte quand même que les gens, ils viennent à un atelier sur le vin parce qu'ils ont envie de découvrir des choses sur le vin. Donc, je pense que c'était un peu frustrant de ne pas du tout parler de ce jargon œnologique, de ce vocabulaire que les gens ont envie d'avoir quand tu dégustes un vin. Apprendre comment servir, quelle est la température, quels sont les accords. Je leur fournis des informations au tout début avec un verre. C'est un verre de vin blanc. Ensuite, il y a une petite mise en éveil du corps. Donc, je fais quelques exercices d'échauffement sur la nuque, sur les épaules, sur le dos. Pas trop sur les hanches, mais j'essaie de leur dire on va se décoincer un petit peu, parce qu'on a tendance à être assez coincé. Donc, on va se décoincer un peu. On reste sur sa chaise ou c'est sur tapis, ça dépend. Ça dépend si c'est en entreprise ou alors dans un studio. Donc, soit sur tapis, soit sur chaise. On se décoince un peu. J'appelle ça une mise en éveil du corps. Ensuite, on fait une visualisation d'un vignoble où là, les gens s'imaginent dans le vignoble avec les sens. Ils entendent, ils voient, ils goûtent. Je fais une première respiration où je suis centrée sur les yeux. Ensuite, il y a une immersion visuelle, c'est-à-dire que les gens ouvrent les yeux et là, ils ont deux verres de vin en face d'eux, un rouge et un blanc. Ils vont se connecter avec le vin parce que je considère que le vin, c'est une émotion. Donc du coup, ils se connectent avec les yeux d'abord. Ensuite, il y a une seconde respiration et là, ils vont sentir le vin, les yeux bandés. Et là, ils vont peut-être avoir des émotions, des images qui vont leur venir à l'esprit. Et enfin, une troisième respiration sur le goût. Et là, ils vont goûter le vin. Et à côté de ça, ils vont avoir des accords avec les deux vins. Et là, ils vont vraiment essayer de se concentrer sur la texture, sur le goût, les accords, l'équilibre au niveau du mets et au niveau du vin. Et il y a une petite surprise à la fin, mais du coup, je ne le dis pas parce que pour les gens qui veulent venir à l'atelier...
Voilà, on va laisser la surprise. Donc ça, en fait, c'est ce que tu appelles une dégustation intuitive, c'est ça par rapport à la dégustation analytique dont tu parlais au début ?
Exactement. En fait, la dégustation intuitive, on sort complètement des codes de l'analyse et on est sur l'intuition. C'est-à-dire que quand vous allez sentir, quand vous allez goûter un vin, vous allez peut-être avoir des émotions qui vont monter. Vous allez peut-être avoir des images, des souvenirs. Et c'est grâce à ces souvenirs, grâce à ces images, grâce à ces émotions que vous allez pouvoir vous connecter avec le vin et avec ce qui est à l'intérieur du verre. Et c'est ça qui va faire que vous allez apprécier.
Et pour toi, qu'est-ce que ça change justement par rapport à la dégustation analytique classique ? Est-ce qu'il y a notamment le fait que bah, du coup, il n'y a pas de pression, pas de comparaison avec ce que les autres peuvent trouver, pas de bonne ou de mauvaise réponse ? Et est-ce que ça se rapproche aussi d'une approche yoga justement
Exactement. Tout le monde peut faire du yoga. Tout le monde peut déguster du vin en conscience. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on peut être néophyte comme confirmé dans le vin. Est-ce qu'une personne confirmée qui connaît le jargon viticole par cœur a vraiment cette connexion avec le vin, avec ses sens? Peut-être qu'il a perdu cette connexion et qu'il a besoin de la retrouver. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir venir à l'atelier, de pouvoir suivre son intuition et de pouvoir se dire, ok, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment connecté avec le vin, que je n'avais pas dégusté de manière intuitive, avec conscience, dans le présent. Que, voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant de casser un peu les barrières et de se dire, bah, la personne à côté de moi n'a pas les mêmes souvenirs, n'a pas les mêmes émotions. Donc finalement, je ne vais pas me comparer parce qu'on n'a pas le même passif. Et c'est ça qui est intéressant.
Et toi, quand tu fais ce genre de dégustation intuitive, tu trouves que ça change beaucoup ton appréciation du vin par rapport à une dégustation classique ?
Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est-à-dire que on n'est plus... En fait, on est dans une totale connexion avec son vin. Donc, je considère qu'en fait, avec cette dégustation intuitive, on apprécie d'autant plus ce qui se passe, ce qu'on a à l'intérieur, donc dans le verre. Et du coup, on n'a pas envie de boire beaucoup. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, comme on sait ce qu'il y a derrière le vin, son émotion, ses images, on n'a pas envie de faire ça pendant avec 4, 5, 6, 7 vins, parce qu'on sait que très vite, on va perdre le fil, en fait. Et 2 vins, ça suffit. 3 grands maximum pour avoir des souvenirs, des émotions. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, quand je suis en soirée, quand je suis avec des amis, bah, après 2 verres, je me dis que mon palais, il est, voilà, il est saturé, je vais avoir beaucoup moins de sensations. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce premier goût après une journée éreintante ou un cours de yoga, on est très détendu, on arrive, on est entouré de ses amis, on commande un verre, la première gorgée, c'est la meilleure en fait, c'est ça qui fait tout. Donc finalement, pourquoi chercher à... Oui, de temps en temps, j'aime bien être pompette, danser, vraiment être un peu bourrée, quoi. Mais c'est plus un truc que je recherche aujourd'hui, notamment quand on est passionné par le vin et qu'on aime...
Oui, ça aide à aller vers plus de modération, à changer sa façon en fait, de exactement. Consommer l'alcool et d'être plus vraiment dans la dégustation pour le coup que, c'est que ça. Boire pour boire.
Exactement.
Et c'est ça. Alors, lors d'un atelier qu'on avait fait en visio justement avec toi pendant le dernier confinement, je crois que tu avais fait un peu un parallèle entre le yin yoga et ce qui se passe au cours d'une dégustation intuitive, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour que ça s'installe, qu'il y ait des choses qui émergent.
Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis moins dans le yin dans mes ateliers. Mais ce qui ressemble entre le yin et la biodynamie, donc notamment les vins qu'on goûte, le yin déjà, il faut du temps avant de se poser dans une posture. Il faut être patient, il faut s'écouter. Dans le vin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite sentir des arômes, on ne va pas tout de suite avoir des émotions. Il faut peut-être se connecter un petit temps avec le vin, prendre du temps avant de sentir les arômes et d'avoir des souvenirs, des images. C'est pour ça que très souvent, l'immersion... que ce soit visuelle, olfactive et gustative, l'immersion, elle dure entre 3 et 5 minutes. C'est-à-dire que je laisse entre 3 et 5 minutes le client, j'allais dire le patient, mais non, pas du tout, le client avec le vin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il se connecte tous les deux. Et c'est comme ça qu'on va avoir des émotions et des sensations. Le yin, c'est pareil, pour vraiment sentir que la posture nous fait du bien, il faut rentrer dans la pose avec lenteur, avec conscience. Il faut rester longtemps dans la pose immobile pour vraiment sentir que les tissus se détendent et qu'on commence vraiment à ressentir la pose. Ça, c'est la première similitude entre les deux. La deuxième, c'est la biodynamie et le yin. On parle d'éléments, on parle de méridiens. Dans la biodynamie, on va parler des éléments. Le calendrier lunaire, le vigneron, il va utiliser un calendrier lunaire selon les jours où il va pouvoir faire tel ou tel travail dans la vigne, selon... Si la lune est croissante, décroissante, pleine, nouvelle, si elle passe devant telle ou telle constellation, c'est vraiment ça la biodynamie. C'est le précepte de l'agriculture biologique, mais on va intégrer tout ce qui est cosmologique et philosophique.
D'accord.
Et c'est ça qui est
passionnant. Oui, donc toi, tu vois là un lien direct avec le yoga. Et du coup, est-ce que dans tes ateliers, c'est plutôt des vins en biodynamique que tu essayes de faire déguster ?
C'est complètement que de la biodynamie.
D'accord, oui, pour toi, c'est important d'avoir cette cohérence.
Ouais. Pour moi, tu ne peux pas faire un atelier où tu vas te connecter avec le vin si le vin, il a des pesticides. En fait, le vin, il va pas être connecté avec toi si jamais tu as une barrière en fait, dedans, qui sont les pesticides et qui sont les insecticides. Il faut que le vin soit pur. Ça paraît peut-être un peu perché, tout ce que je dis, mais en fait, je fais souvent cette référence quand on goûte un vin et qu'il est en biodynamie, quand on goûte un vin qui est en conventionnel. Après, jamais je ne mettrai à défaut les vins conventionnels. Il y a des vignerons qui ne peuvent pas faire du bio parce qu'il y a trop de précipitations, parce que c'est une région qui est impossible au bio. Je comprends tout à fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas se payer du bio. Enfin, je ne veux pas du tout dire que le conventionnel, ce n'est pas bon. Du tout. Je dis juste que j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Les pesticides changent le goût du vin ». C'est un œnologue qui l'avait écrit. Parce qu'en fait, il faut savoir que, par exemple, je donne souvent cet exemple, quand ta maman te fait une confiture, elle est faite avec amour, il y a du raisin, un peu de sucre, mais un sucre raisonnable, donc un sucre naturel. Elle la fait, elle la fabrique, elle te la donne dans un pot. Toi, le lendemain matin, tu as ta tartine, tu mets ta confiture faite par ta maman, et imagine, tu mets 3 kilos de sirop d'agave ou de sucre sur la confiture. Tu n'auras plus le goût de la confiture de ta maman. Ça sera complètement inhibé. Et ben c'est pareil avec le vin conventionnel. Tu n'auras plus le terroir, le sol et ce qui se passe à l'intérieur parce que tu auras les pesticides en fait qui vont changer le goût. Donc c'est dommage.
Oui, je comprends ce que tu veux dire effectivement. Et comme on parlait des vignerons qui travaillent en biodynamie, est-ce que toi, à ta connaissance, il y a beaucoup de vignerons qui pratiquent aussi le yoga ou d'autres activités qui, dans le même esprit ?
Alors, ils ont une vraie passion pour la terre, pour la nature. Ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui se passe en termes de calendrier lunaire. Et pour te dire, tous les vignerons que j'ai rencontrés en biodynamie, il y en a une qui fait de la réflexologie plantaire, il y en a un qui fait du tai chi, il y en a un autre qui fait de la méditation tous les matins. J'ai rencontré une sophrologue aussi. En fait, ils ont tous cette appétence pour la détente, pour la transmission avec la terre. Il y en a beaucoup qui... Moi, j'avais discuté avec un vigneron, il marche pieds nus dans ses vignes un matin sur deux pour se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur, pour être comme les vignes en fait, pour s'ancrer un peu.
Tu nous avais expliqué aussi que même si la dégustation intuitive, elle fait remonter des souvenirs ou des émotions qui peuvent être plutôt négatifs, hein, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va accueillir, ce qui va émerger, que ce n'était pas forcément un problème et que justement l'idée c'est aussi d'accueillir tout ce qui se présente et qu'on peut quand même apprécier le vin, même si la dégustation fait ressortir des images ou des souvenirs difficiles, c'est ça ?
Bien sûr, on peut considérer, comme le yoga, qu'une dégustation au vin, ça peut être un peu thérapeutique. Pourquoi pas ? Et c'est pour ça que c'est intéressant que les gens, au moment où ils viennent à mes ateliers, je leur dis toujours d'apporter des feuilles de papier, des crayons ou un cahier pour pouvoir écrire, si jamais ils veulent écrire ce qu'ils ressentent pendant la dégustation. Parce que ça peut faire remonter des souvenirs ou des choses qui peuvent être plutôt difficiles. Et le fait d'écrire et le fait que ça ressorte, ça peut être bénéfique pour eux aussi. Moi, j'ai une phrase favorite, c'est le vin, c'est une émotion, c'est des souvenirs, et ça peut être thérapeutique. Bien évidemment, c'est difficile de dire ça parce que c'est de l'alcool, et du coup, on pourrait penser que comme c'est de l'alcool, ça n'a rien à voir. Mais comme on peut vraiment avoir des émotions ou des choses qui en découlent, pourquoi pas finalement venir et voir ça comme quelque chose de bénéfique pour soi aussi.
Et alors toi, tu organises aussi des retraites yoga et vin en Italie. Comment est-ce que tu articules les deux dans ces retraites ? Est-ce que là, c'est un petit peu différent ?
Alors oui, là, c'est un peu différent, effectivement. Les retraites, c'est soit sur 4 jours, soit sur 2 jours. Ça dépend si c'est en Italie ou si c'est en France. Et en fait, on fait une pratique de yoga le matin. Juste avant, on fait un peu de HIIT, de interval training en sport, parce que je suis très, très fan de sport et de musculation aussi, donc j'aime bien intégrer ça. Donc, il y a toujours une demi-heure à peu près de dérouillage avant le yoga. Ensuite, il y a 2 heures de yoga avec 1 heure de pratique et 1 heure de... On appelle ça Asana Lab. Donc, c'est-à-dire qu'on va décortiquer des postures pour pouvoir vraiment sentir quels sont les muscles qui travaillent, quels sont les muscles qu'on étire, qu'est-ce qui peut nous faire du bien dans telle ou telle posture. Ensuite, il y a un brunch. Et en fait, l'après-midi, on va faire un cours de yoga dans les vignes. Et là, ça va être un yin. Donc, un cours de yoga très, très doux, dans les vignes pour que les gens puissent vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe autour d'eux. Le bruit de la nature, de ma voix. Et après ce cours de yin, là, il y a une dégustation de vin, donc de vin bio. Dans la région où je vais, c'est très compliqué de trouver de la biodynamie, mais j'essaye vraiment d'être en bio et que le produit soit vraiment pur. Et du coup, il y a 3 ou 4 vignobles dans lesquels on va. Et là, il y a dégustation de vin, des mecs qui sont végétariens, voire vegan. Et il y a une chef chez mon ami, chez qui on est, qui est une chef vegan, qui fait de l'Ayurveda. Et du coup, tous les brunchs, dîners sont végans.
D'accord. Voilà. Et justement, est-ce que tu avais senti, toi, qu'il y avait une demande pour ces ateliers et ces retraites qui mêlaient les thèmes de yoga et vin ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu passionnés par les deux et qui ont envie de combiner les deux ?
Alors aujourd'hui, je pense que parce que c'est un marché qui est encore nouveau, en tout cas en France, parce qu'en Australie, Nouvelle-Zélande, Californie, tout ça, c'est très, très réputé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vignes. Donc les gens sont plus habitués aux expériences un peu atypiques, funky. Et surtout, là-bas, c'est beaucoup, on fait une pratique de yoga dans les vignobles et ensuite on boit 3, 4, 5 verres de vin et c'est un apéro. Et finalement, il n'y a pas vraiment cette notion de trouver un équilibre, de développement, enfin de, voilà, d'intuition, d'aiguisation intuitive.
C'est juste moi, tu pratiques et tu picoles, quoi. Mais...
voilà, exactement. C'est vraiment ça, c'est pratique et picole. Là, le seul inconvénient, enfin l'avantage que j'ai, c'est que je suis un peu seule sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça en France. Donc du coup, il faut tout faire. Il faut éduquer les gens à cette méthode. Et il y a encore beaucoup de gens, quand ils se mettent au yoga, qui pratiquent, qui ont du mal à allier les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut, essayer d'éduquer ou en tout cas de convaincre les gens de venir et de leur dire qu'il y a un équilibre, qu'on va faire du yoga, qu'on va boire un peu, mais pas trop, parce que le lendemain, il y aura quand même un cours de yoga. Donc du coup, très souvent pendant mes retraites, le soir, quand on boit un peu de vin, je dis aux gens, faites attention, demain à 9h, dérouillage, yoga, donc buvez pas trop. Donc les gens sont quand même prévenus qu'il y a un certain équilibre qu'on trouve. Mais effectivement, la plupart des gens qui viennent à mes ateliers, à mes retraites, ils disent, nous, on en a marre des retraites où on boit du jus de carotte et du jus de gingembre le soir. On a aussi envie de pouvoir se faire du bien,
plaisir. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de retraites où on peut... Voilà.
Il y a beaucoup de retraites où on boit
bon
du vin.
Être bon vivant et faire du yoga.
Voilà, c'est ça. C'est juste que là, effectivement, mes retraites, il y a la notion de dégustation et d'apprendre comment déguster pendant les... Et puis surtout, c'est tous les jours, en fait. On va dans un vignoble tous les jours. On est vraiment en immersion totale dans un vignoble. Il n'y a pas que une dégustation de vin, là on dort. C'est qu'on va vraiment dans le vignoble, tous les jours il y a un vignoble différent, tous les jours on déguste des vins différents et tous les jours on en apprend un peu plus.
D'accord, bah écoute, moi je trouve le concept super, hein. De toute façon moi ça m'a vraiment parlé. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver là cet automne du coup si on a envie de découvrir ces ateliers ou ces retraites avec toi?
Alors je fais une retraite à Fontainebleau, à côté de Fontainebleau, à Achat-la-Forêt du 8 au 10 octobre, où pareil, il va y avoir l'atelier qui est intégré dans le week-end, des cours de yoga, des cours de yin, voilà, il y aura un peu tout ça, parce que ça sera sur 2 jours. Et mes ateliers de dégustation intuitive se passent donc dans un studio de yoga à Paris. Et donc là, ça va être le 16 et le 23 octobre, et vous pouvez retrouver ça sur la plateforme Fever que j'utilise, F-E-V-E-R. Et sinon, simplement, par mail, vous m'envoyez un mail, vous me demandez est-ce qu'il reste des places. Sur Instagram, je suis extrêmement active sur Insta et réactive. Donc, il suffit de m'envoyer un message pour me demander s'il reste de la place pour le 16 octobre ou le 23 octobre, qui sont le samedi de 17h à 19h.
Je mettrai tout ça, tous les liens pour te contacter en description de l'épisode de toute façon.
Trop bien. Bah, merci beaucoup
Guénaëlle. À bientôt.
Merci. Salut, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode hors série. J'espère que cette thématique un petit peu décalée vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur mon compte Instagram Yoga et Nous Podcast. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, bonne dégustation et bonne pratique.